Et tout de suite, on retrouve le journal qui vous est présenté par Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. En théorie, les bacheliers peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils auront leurs résultats vendredi. C'est en tout cas la promesse ce soir du ministre de l'Éducation. La première visite d'Édouard Philippe en Corse, placée sous le signe de la reprise du dialogue avec les leaders nationalistes. Un tribunal allemand empêche le transfert en France d'une demandeuse d'asile et de sa fille. Le juge considère en effet que ces Iraniens encourent des risques de traitement inhumain ou dégradant. Dans ce journal, on parlera également de ce bombardement en Libye qui visait un centre de détention pour migrants et qui a fait une quarantaine de morts. Les Nations Unies parlent d'un possible crime de guerre. Et puis ces recherches qui vont reprendre pour tenter de retrouver l'épave du sous-marin Minerve disparu au large de la rade de Toulon, c'était en 1968. Qui rejoindra les États-Unis en finale du mondial de foot féminin? On aura la réponse tout à l'heure, puisqu'en ce moment se joue la deuxième demi-finale entre la Suède et les Pays-Bas à Lyon. C'est la mi-temps, zéro partout. Côté météo, après les orages nocturnes, le soleil prendra le relais demain. Un peu de patience toutefois sur le sud de la Garonne qui restera sous les nuages en matinée, mais au soleil l'après-midi. Et attention au retour des orages en début de soirée sur les Pyrénées et sur les Alpes. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Laurent Lévy. Il est le président fondateur d'Optical Center. C'est l'un des principaux réseaux d'optique en France qui recrute à tour de bras. Europe 1. Et voilà qui devrait donc rassurer les candidats au bac. A priori, tout le monde connaîtra ses résultats vendredi comme prévu, et ce malgré le mouvement de certains correcteurs qui menacent de ne pas rendre leurs notes pour protester contre la réforme du lycée et du bac. Le ministre de l'Éducation assure en tout cas ce soir que tout sera fait en ce sens.
Vendredi, les élèves auront leurs résultats. C'est mon devoir de garantir cela, et c'est bien entendu normal que les élèves aient leurs résultats à la date prévue, ne serait-ce que parce qu'il y a des conséquences des résultats, notamment le fait de passer éventuellement l'oral de rattrapage en début de semaine prochaine. Pour le cas où il y aurait encore quelques notes manquantes, ce qui arrive à chaque session du baccalauréat, parce que parfois vous avez des pertes de copies, vous avez des problèmes pratiques, dans ces cas-là, la solution que l'on retient, c'est de donner la note de contrôle continu de l'année de l'élève. C'est donc ce que l'on fera. Elle sera donnée à titre provisoire vendredi, ce qui permettra à l'élève d'avoir son résultat. Si là, en début de semaine, on a finalement la copie et que la note est meilleure, c'est cette note-là qui sera retenue. Mais sinon, c'est la note provisoire qui sera la note définitive. Et donc, nous aurons ainsi pour tous les élèves toutes les notes. Et nous garantirons le fait qu'une petite minorité ne saurait imposer sa façon de voir à l'immense majorité des professeurs d'une part et à la totalité des élèves d'autre part.
Voilà pour ces précisions ce soir de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, chez nos confrères de BFM TV. Édouard Philippe a débuté aujourd'hui une visite de 2 jours en Corse. C'est la première fois qu'il s'y rend depuis qu'il est à Matignon. Aurélie Herbemont, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Bastia. Vous avez suivi, Aurélie, le Premier ministre toute la journée. Mission délicate hein, dans un contexte de climat tendu entre l'exécutif et les dirigeants nationalistes. Dirigeants que le Premier ministre a rencontrés, Aurélie, dès le début de sa visite. Hein.
Oui, et ce rendez-vous a duré 1h15, bien plus longtemps que prévu, donc signe de la reprise du dialogue, car je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Il y a un an, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée, boudait un rendez-vous à Matignon, et Gilles Simeoni, président de l'exécutif, en ressortait en parlant de situations de crise et de blocage. En avril dernier, les deux nationalistes avaient d'ailleurs boycotté le grand débat d'Emmanuel Macron en Corse, car Paris n'accède pas à leurs revendications. Co-officialité de la langue corse, rapprochement des prisonniers, création d'un statut de résident, inscription de la spécificité corse dans la Constitution, plus d'autonomie. Alors avant l'arrivée d'Édouard Philippe tout à l'heure à Bastia, Gilles Simeoni réclamait un acte 2 de la relation entre l'État et la Corse. À la sortie, il considère qu'il n'y a pas d'avancée. Idem du côté de Jean-Guy Talamoni.
Disons qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a rien de bien nouveau du côté de Paris. Nous, après nous être consultés, nous avons décidé de faire une nouvelle tentative pour l'ouverture d'un dialogue fructueux entre la Corse et Paris. Nous attendons à présent, non pas tellement des paroles, mais des faits.
Alors Édouard Philippe, lui, eh bien, il est surtout venu parler de sujets concrets, dit Matignon. Formation professionnelle, déploiement du plan pauvreté, revitalisation des centres-villes d'Ajaccio et Bastia, énergie. Et il va rencontrer beaucoup de maires pour discuter de tout ça, histoire de ne pas s'enfermer dans un face-à-face politique avec les nationalistes.
Aurélie Herbemont, envoyée spéciale d'Europe 1 en Corse. L'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, retire sa candidature à l'investiture La République en marche pour les municipales à Paris. Il rejoint le député Cédric Villani. Dany, à quelques jours du grand oral des candidats devant la commission d'investiture. Les nominations se poursuivent à Bruxelles. Le nouveau président du Parlement européen sera italien, David Sassoli, à 63 ans. C'est un ancien journaliste, ex-présentateur du JT. Information Europe 1, le nouveau plus haut magistrat de France est une femme. Il s'agit de Chantal Arens, qui succède à Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire de France. Chantal Arens était jusqu'ici à la tête des magistrats du siège à la Cour d'appel de Paris. C'est une décision lourde de sens sur l'accueil des demandeurs d'asile dans notre pays. La justice allemande a refusé de renvoyer en France une réfugiée iranienne et sa fille, invoquant le risque de traitement inhumain et dégradant. Le juge allemand s'est fondé sur le récit de leur premier passage en France l'an dernier. Laurent Delbos est juriste en droit des étrangers.
Ça démontre un peu les défaillances qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en France. Ici, en l'occurrence, il s'agissait d'une femme avec un enfant de 10 ans. Et cette femme, pendant cette période de non-hébergement et où elle n'a pas été accueillie, cette femme a été violée pendant son passage à la rue. Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a moins d'un demandeur d'asile sur deux qui est hébergé, alors que l'État, normalement, a l'obligation d'héberger les demandeurs d'asile. Et il y a aujourd'hui un sous-dimensionnement très important du dispositif d'accueil. Donc c'est un peu ce que vient illustrer cette décision et elle vient illustrer les conséquences dramatiques que ça peut avoir quand on est face à des situations de vulnérabilité. Et c'est surtout une alerte pour les pouvoirs publics français.
Laurent Delbos de l'association Forum Réfugiés Cosy, il répondait pour Europe 1 à Justin Morin. Il s'en était pris à des Roms en menant des expéditions punitives après la propagation sur les réseaux sociaux de rumeurs d'enlèvement d'enfants. 6 hommes ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bobigny en région parisienne. Braquage, trafic de drogue, proxénétisme, la grande criminalité en France est en pleine évolution. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de la direction de la police judiciaire qui analyse les grandes tendances du crime organisé. Alors Guillaume Bier, quels sont les principaux enseignements de ce rapport ?
Alors on va commencer par le plus spectaculaire, les braquages, les vols à main armée. Leur nombre a chuté de 25% l'an dernier. 2157 vols à main armée recensés en 2018. Ça ne cesse de diminuer d'année en année, mais là c'est vraiment une baisse spectaculaire avec des braqueurs qui se diversifient. Par exemple, figurez-vous qu'ils ne s'en prennent plus à des banques, ça a quasiment disparu. En revanche, ils se braquent entre malfaiteurs désormais. Vous avez des équipes chevronnées qui vont s'attaquer au convoi de drogue d'un gang adverse en n'hésitant pas à utiliser des méthodes policières en posant des balises GPS sur les camions de leurs concurrents pour mieux les suivre et pour mieux les attaquer au moment opportun. La police judiciaire constate aussi que des malfaiteurs s'en prennent de plus en plus aux collecteurs. Ces collecteurs, ce sont ces intermédiaires qui ramassent l'argent de la drogue pour ensuite le blanchir. Ils sont devenus des cibles privilégiées parce qu'ils sont moins protégés et ils se font parfois dérober des centaines de milliers d'euros. Parmi les autres évolutions pointées par le service d'analyse et de renseignement criminel de la police, il y a la prostitution aussi qui est en pleine mutation avec de moins en moins de prostituées dans les rues et aux abords des villes. Cette tendance se poursuit. On en trouve de plus en plus, cette fois dans les appartements, avec du racolage par Internet. Explosion du nombre d'affaires de proxénétisme de cité. Elles ont été multipliées par 3 en l'espace de 2 ans. De plus en plus de victimes mineures, presque 1 sur 2 à moins de 18 ans. Et elles sont désormais recrutées bien au-delà des quartiers sensibles, par réseau, par rencontre, notamment sur les réseaux sociaux. L'an dernier, 120 dossiers de ce type ont été traités par les enquêteurs et 10 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis. C'est aussi pour vous dire les profits considérables que génère ce proxénétisme qui est en plein développement.
Les précisions de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal. Armez-vous de patience si vous devez vous rendre à un guichet de la SNCF. A tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h10. C'est la suite de votre journal début juillet. Ça sent bon les vacances. Les premiers gros départs, ce sera ce week-end avec des routes coloriées en rouge par bison futé. Et si vous avez choisi de prendre le train, vous avez peut-être déjà été confronté à ce parcours du combattant. Vous avez un problème avec votre billet ou votre carte d'abonnement, impossible à régler sur Internet. Du coup, seule solution, se déplacer à un guichet. Et là, des files d'attente interminables. C'est la conséquence de la diminution du nombre de points de vente. D'ailleurs, pour dénoncer cette situation, la CFDT Cheminots va chronométrer pendant 10 jours le temps d'attente pour acheter un billet. Jusqu'à 2h ce matin, gare Saint-Lazare à Paris pour Natacha.
La modernisation a dématérialisé les guichets etc. Ça ne fonctionne pas, parce que si je viens, c'est parce que justement sur Internet ça ne fonctionne pas et je suis équipé d'un ordinateur. Voilà, le temps d'attente est énorme. Il y a 4 guichets qui sont fermés alors qu'il pourrait y avoir des gens. Et on nous fait attendre dehors alors qu'avant il y avait beaucoup plus de sièges et là il n'y a plus de sièges. On ne peut plus patienter assis dans la salle d'attente pendant 2 heures. Après, j'ai vu qu'on pouvait prendre des rendez-vous par le 3615, mais enfin, faut y penser, quoi. Là, je pouvais prendre un rendez-vous, mais il aurait eu lieu dans une semaine. Plus en plus de gens vont prendre des rendez-vous, ben, en fait, faudra des temps d'attente d'un mois pour voyager. Ben non, pour partir en week-end comme ça au pied levé, ben, c'est pas faisable. Donc les guichets, ouais, sont importants.
Parole de voyageur au micro Romain de Jeanne Bergaoui, notre reporter qui a vérifié. Première date proposée pour un rendez-vous, effectivement, c'est le 11 juillet. Une réunion d'urgence ce soir du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation en Libye. Les Nations Unies parlent d'un possible crime de guerre et réclament une enquête indépendante. La France et l'Union européenne condamnent une attaque qualifiée d'horrible. Jean-Sébastien Soldaini, on parle là d'un raid aérien qui a frappé un centre de détention de migrants faisant une quarantaine de morts.
44 morts précisément et une centaine de blessés. Ce centre de détention de migrants abritait environ 600 personnes, en majorité des Érythréens, des Soudanais venus en Libye pour tenter de traverser la Méditerranée et atteindre l'Europe. Des migrants qui se trouvent au milieu de la guerre civile libyenne. Vous avez là deux camps qui s'opposent, le gouvernement reconnu par l'ONU et les forces armées qui tiennent l'est du pays. Ce sont elles qui tentent de prendre le contrôle de la capitale Tripoli, les troupes du maréchal Haftar, et ce sont elles qui seraient à l'origine de ce raid. La communauté internationale parle d'un crime de guerre, les ONG locales aussi. Walid El Adeiri représente, lui, la Commission libyenne des droits de l'homme et il affirme que ce centre de migrants était délibérément ciblé.
On est face à un crime de guerre, d'autant plus que les camps pour les migrants, ce sont des camps qui sont bien démarqués. Les Nations Unies ont très bonne connaissance de l'emplacement de ces sites, surtout si on parle à ce moment-là de forces armées qui ont un minimum de coordination stratégique pour savoir où cibler, quoi cibler, ce qu'il ne faut pas cibler. C'est difficile de ne pas savoir.
Les organisations humanitaires et le Haut Commissariat aux réfugiés réclament pour leur part que les migrants soient évacués de cette zone. Tous estiment que la Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi de migrants.
Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini, grand reporter à Europe 1. Ce soir, les forces du maréchal Haftar nient leur responsabilité dans ce massacre. En revanche, elles viennent à l'instant de revendiquer un raid aérien qui a visé l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne Tripoli, provoquant la suspension de tous les vols. Cette attaque n'a fait a priori ni dégâts ni victimes. C'était le 27 janvier 1968. Le sous-marin Minerve et ses 52 hommes d'équipage disparaissaient au large de la rade de Toulon. Il n'a depuis jamais été retrouvé. Mais aujourd'hui, de nouvelles recherches vont être lancées 51 ans plus tard pour tenter de retrouver l'épave. Un espoir pour les familles des disparus. Hervé Fauve est le fils du commandant de la Minerve.
Depuis 1968, jusqu'à ces derniers mois, on avait l'impression qu'il n'y avait que les familles qui pensaient encore à ce sous-marin disparu. Et là, on a senti véritablement qu'on était porté par le soutien de non seulement tous les marins qui avaient connu cette époque, mais aussi tous ceux qui sont encore aujourd'hui dans la marine. J'espère qu'on va enfin pouvoir voir l'aboutissement de quelque chose qu'on attend, nous, depuis 50 ans. C'est-à-dire d'avoir une idée un peu plus précise d'abord de ce qui peut-être a pu se passer, bien qu'on ait des doutes sur ce qu'ils vont pouvoir en dire. Et puis c'est surtout pouvoir enfin se dire voilà où ils reposent. Et puis en pensant à eux, se dire on vous a cherché jusqu'au dernier instant.
Le fils du commandant de la Minerve au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Le foot est la deuxième demi-finale du Mondial. Ça se passe en ce moment entre les Pays-Bas et la Suède et toujours 0-0. Un match un peu terne, un peu ennuyeux, me dit-on en régie, où on a le temps et la chance de regarder cette rencontre pendant que je vous parle. À propos de foot, Nancy évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Le club risquait une rétrogradation en National 1. Finalement, le gendarme financier du foot a levé sa menace après l'audition des dirigeants du club hier. L'attaquant portugais de 19 ans, João Félix, formé au Benfica Lisbonne, a rejoint l'Atlético Madrid aujourd'hui en échange de 126 millions d'euros. C'est un record pour le championnat portugais comme pour l'équipe madrilène qui trouve ainsi un remplaçant à Antoine Griezmann. Et puis les résultats du jour à Wimbledon, élimination de Jérémy Chardy et de Corentin Moutet, mais qualification de Benoît Paire et d'Hugo Humbert. La météo, Elena Morna, et l'atmosphère qui reste électrique ce soir, Elena.
Oui Isabelle, de nombreux impacts d'orages, alors essentiellement sur les reliefs, parfois costauds quand même ces orages hein, qui claquent depuis 15h cet après-midi, avec parfois de bonnes averses, de la grêle également. Alors à la différence des orages stationnaires des derniers jours, on a ce soir des orages qui se succèdent les uns après les autres et qui commencent d'ailleurs à s'espacer. Ils vont finir par se calmer et puis demain matin, eh bien, c'est tout simplement le soleil qui vous cueillera dès l'ouverture des volets. On aura un voile nuageux sur le littoral atlantique, ce sera même gris sur le sud de la Garonne, puis du soleil l'après-midi pour tout le monde. Et voilà de nouveaux orages sur les Pyrénées et les Alpes cette fois. Il s'agira d'averses sur le massif central. Les températures, eh bien ça va bien. 20 degrés à Dunkerque au meilleur de l'après-midi demain, 24 au Havre, 25 à Lille et Brest, 28 à Paris et Strasbourg, 31 pour La Rochelle, pour Bourges ou encore à Toulon, 32 à Nantes et Marseille, 33 à Bordeaux, Biarritz, Montpellier et Lyon, 34 pour Toulouse, 36 à Avignon et Nîmes. Vendredi, journée soleil sans orage cette fois et jusqu'à 38 degrés le long de la Garonne et sur la basse vallée du Rhône. Samedi et dimanche, orageux du sud-ouest aux frontières de l'est.
La météo signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité Claude-Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Laurent Lévy. Il est le président fondateur d'Optical Center. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs, il est temps de s'intéresser à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui bat des records ce soir avant la fête nationale américaine demain.
Au plus haut, Wall Street euphorique, effectivement c'est la fête nationale 4 juillet demain. Il n'y aura pas de cotation donc à Wall Street demain soir. D'ailleurs aujourd'hui c'était une demi-séance, mais ça a suffi donc pour battre des records sur le Dow Jones qui grimpe de 0,67%, 26 966 points. Le Standard & Poor's, le S&P prend 0,77%, 2 995 points au plus haut. Le Nasdaq s'adjuge 0,75%, 8 170 points. Les anticipations de baisse des taux aux États-Unis se confirment pour la fin juillet, peut-être même d'un demi-point pour aider la croissance américaine qui envoie des signes de lassitude. Et donc, ça pousse les indices boursiers au plus haut. On a un pétrole qui remonte aussi un petit peu, $57 le baril, plus 1,3%. Et aux valeurs de technologie, ça grimpe, à commencer par Tesla qui s'adjuge 4,6% après la livraison de 95 200 véhicules au deuxième trimestre. On a des hausses de 0,8% sur Apple, de 0,6% sur Microsoft, de 0,9% sur Google. L'euro reste très sage, sous les 1,13, 1,1280 face au dollar.
Et la bourse de Paris, elle, a terminé au-dessus de la barre des 5600 points ce soir.
Oui, tout à fait. Le CAC a largement profité de cette euphorie américaine. Le CAC 40 a gagné 0,75%. Il y a eu une accélération en fin de journée, donc au moment où Wall Street ouvre à l'heure de Paris. Donc le CAC au-dessus des 5600 points, le CAC 40, 5619 points, de quoi porter la hausse du marché à 19% depuis le 1er janvier. Quelques grandes valeurs ont montré le chemin de la hausse. On a Atos, plus 2,5%, Ubisoft, plus 3,5%, EDF se reprend de 2%. À 11,34€, aidé par une note de HSBC qui vise un cours de 13,50€ sur EDF. Et puis Capgemini grimpe encore d'un 0,5%. On a derrière Engie plus 1% avec Lafarge ou le Crédit Agricole.
Et on sait, Didier, que vous avez toujours eu l'exception du jour. Et ce soir, c'est le secteur automobile qui a de nouveau baissé.
Une grosse exception, oui, tout le secteur automobile, en particulier les équipementiers qui retombent assez lourdement d'ailleurs. Valeo, moins 3,5%, dégradé par certains analystes qui estiment que la transition énergétique reste un problème à court terme pour le secteur. D'ailleurs, Faurecia perd aussi 3%. Et puis la distribution, toujours mal en point. On a Casino qui repère 2,5%, Carrefour, moins 1%. Sur les autres places financières, ça monte assez nettement d'ailleurs. Francfort, plus 0,7%. Bruxelles plus 1,2%, Madrid plus 1,2% aussi, Milan plus 2,4%. On rappelle donc le CAC 40 en hausse de 0,75%, 5 619 points.
Merci pour ce tour d'horizon, toujours très complet, Didier Hamot de boursier.com. Et à 22h20, il est temps de retrouver l'invité éco Emmanuel Dutheil. Vous recevez ce soir le président fondateur d'Optical Center.
Bonsoir Laurent Lévy.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président fondateur d'Optical Center, c'est un des principaux réseaux d'optique en France. Quand je suis allé ce matin sur votre site internet, la première chose que l'on voit, ce sont les offres de recrutement. Ce matin, c'était 300 opticiens, 200 audioprothésistes, mais je crois que ce soir, vous venez nous annoncer que c'est bien plus que ça d'ici à la fin de l'année et c'est encore plus l'année prochaine.
On recrute 700 personnes sur l'année en 2019 et 800 l'année prochaine. On a recruté quand même 300 personnes depuis le début de l'année. Et là, aujourd'hui, on a fait le point à fin juin, combien de personnes nous manquaient, et voilà.
Ça veut dire aussi des magasins qui vont ouvrir ?
Alors, on va ouvrir en 2019 60 et quelques magasins, dont 50 en France. Et puis l'année prochaine, on va en ouvrir à peu près 60, Voilà, c'est, donc en
pourquoi fait, vouloir être le leader? Parce que ceux qui sont devant vous, c'est Optique 2000 qui est leader, devant Chris, même s'ils se bataillent pour se dire je suis le premier ou je suis le deuxième, mais on va dire que les deux sont devant vous, ou vous êtes troisième. À quoi ça sert d'être leader?
Bon, déjà, ça donne une vision pour l'entreprise. On a lancé cette vision 2020 d'être leader en France en optique en édition en 2011, en janvier 2011. Le groupe a été fédéré sur cette vision-là. Et donc, ça nous donne un objectif, quoi. Et puis ensuite, il faut savoir que la France est leader dans le monde en optique. Mmh. La dépense par habitant est la plus importante dans le monde en France.
Alors vous, votre particularité, c'est que pour ouvrir l'un de vos 20 magasins, il faut déjà travailler dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reconvertir. Et je crois qu'il faut être salarié depuis au minimum 3 ans.
Pour ouvrir une franchise.
Voilà, pour ouvrir une franchise.
Oui, on franchise uniquement en interne, pas de prosélytisme. On recrute uniquement des personnes à l'intérieur du groupe qui ont les valeurs, qui connaissent les personnes, qui connaissent les offres et qui savent travailler.
On a reçu plusieurs de vos concurrents depuis la rentrée de septembre. Tous nous ont dit, on ne trouve pas les personnels. Il n'y en a pas. Vous allez trouver des audioprothésistes, des opticiens. Il y en a sur le marché?
Alors, il y avait 2500 opticiens qui sortaient en France il y a 3 ans. Cette année, il va y en avoir entre 1500 et 1600. Donc, c'est plus compliqué. Ensuite, ceux qui sortent font souvent une année ou 2 années de plus pour se spécialiser. Et en audioprothèse, il y en a 200 qui sortent cette année. Il y en aura 300 dans 3 ans. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour le marché, quoi.
Mais vous faites comment alors? Vous allez les trouver où?
Alors, comment on fait? Bon, d'abord, c'est sympa de bosser chez nous. Il y a une bonne ambiance, on se marre bien, etc. Donc, les copains...
Vous les payez un peu mieux que les copains?
Aussi, mais vraiment? Pas que. Vraiment, ouais. On embauche à 2 200 € brut. C'est très correct. Mmh. Et puis, ils évoluent chaque année. Et puis, il y a des primes et puis il y a des avantages sociaux. Enfin bref, c'est une grosse société, donc ça va. Mais au-delà du salaire et des bonnes primes, c'est l'ambiance. Les gens restent chez Optical Center pour l'ambiance. On a 10% de turnover. Donc voilà pourquoi on recrute aussi.
Donc de grosses ambitions en ouverture, de grosses ambitions en embauche pour les années à venir. C'est parce que le secteur se porte bien?
Oui.
Parce que c'est marrant là aussi, quand on vous avait reçu tout ce que vous en êtes le secteur il y a quelques années, quand on avait dit que maintenant, par exemple, pour changer nos lunettes, il fallait attendre 2 ans. Tout ce que vous en êtes, hein, vous aussi, j'ai retrouvé des interviews, vous disiez « Oh là là, mon Dieu, ça va être la catastrophe, on va perdre du chiffre d'affaires ». Rien du tout finalement.
On en a gagné beaucoup, tous ensemble, hein, je pense toute la profession. Alors nous, on veut être leader en France pour pouvoir ensuite exporter le savoir-faire français dans d'autres pays au monde.
Vous y êtes déjà, je crois que par exemple, vous êtes le premier au Canada, vous êtes le premier français,
oui,
vous êtes installé au Canada.
Même, oui. Premier en Amérique du Nord, premier français aussi en Israël, etc., dans d'autres pays. Maintenant, on a des opticiens aujourd'hui qui travaillent en France, mais qui demain vont vouloir aller vivre et développer leur métier dans d'autres pays. Mmh. Donc on va leur permettre de faire cela. Mais d'abord, il faut qu'on soit leader sur notre marché. Voilà.
Mais donc c'est un marché qui fonctionne bien aujourd'hui, malgré les mesures qui étaient entrées en vigueur, principalement
bien
sur les lunettes.
Chaque fois qu'on parle de lunettes, d'accord, ça amène des clients. Mmh. Voilà. La réforme 100% santé qui va sortir là au 1er janvier 2020, va permettre à des Français...
C'est la fameuse réforme sur le reste à charge.
Voilà, reste à charge zéro. Bon, nous, ça fait 3 ans qu'on a lancé le reste à charge zéro chez Optical Center. Et là, il va y avoir encore plus de clients.
Plus les gens qui entendent moins avec le vieillissement de la population.
Et l'audition, même chose, on n'est qu'au début de l'audition.
Justement, sur l'audition, les premières mesures de la réforme 100% santé sont déjà entrées en vigueur. Les prix ont pu baisser un petit peu sur l'audition. Est-ce que vous en voyez, vous aussi, dans vos magasins? Les premiers résultats ont dit que 15 000 assurés sur le premier trimestre ont bénéficié de la réforme.
Oui. Nous, on était à 6% de personnes qui achetaient des appareils de classe 1, ce qu'on appelle classe 1, l'année dernière. Et là, on est à 14%, par exemple, sur les 6 premiers mois. Mmh. Donc oui, il y a plus de Français qui s'équipent en audition et plus jeunes, surtout.
Et cette réforme, donc, également du zéro reste à charge, même si vous dites que vous le faisiez depuis 3 ans, je crois que...
C'est une très bonne réforme pour la France.
Également, chez Optique 2000, ils faisaient quelque chose assez similaire.
Oui, c'est une très bonne réforme pour la France.
On tape beaucoup sur le prix des lunettes. Vous-même, là, au début de cette interview, vous avez dit qu'on est l'une des plus grosses dépenses en Europe. Oui. C'est parce que vous faites beaucoup de marge ou c'est parce que... on achète des produits qui sont beaucoup plus travaillés en France. Typiquement, on a des verres correcteurs beaucoup plus efficaces en France que dans la plupart des autres pays.
D'abord, en France, le marché est dopé par les mutuelles qui remboursent les lunettes. C'est un des rares pays au monde où on rembourse les lunettes. Donc déjà, ça crée de la valeur. Ensuite, on a Essilor en France qui innove avec beaucoup de produits innovants. Et puis, toutes leurs dérivées de produits. Ensuite, il y a beaucoup de publicité autour de l'optique, par les enseignes, mais également par les fournisseurs. Voilà, okay. Puis, il y a beaucoup d'écoles en France. Et puis, il y a un savoir-faire français qui est ancestral. Donc, toutes les conditions sont réunies. Et maintenant, avec l'optométrie, où les gens vont pouvoir rentrer dans les magasins d'optique à partir du 1er janvier 2020 et être remboursés et pour l'examen de vue et pour leurs lunettes, ça va encore être une manne supplémentaire.
Et par ailleurs, vous faites tout ce que vous en êtes dans le secteur, une marge relativement confortable.
Bon, la marge est confortable dans l'optique, oui. C'est un COEF de 3 dans l'optique, il n'y a pas de secret. Voilà, on vend à 300, on achète à 100. Maintenant, il y a beaucoup de frais autour. Et bon, nous, Optical Center, le consommateur ne se trompe pas, parce qu'en fait, on a toujours vendu 40% moins cher que nos concurrents. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème.
Après, s'il y a bien un secteur où c'est compliqué de savoir qui véritablement fait le meilleur prix, c'est quand même bien le vôtre. Parce qu'entre celui qui va faire les trois paires gratuites, celui qui va faire en fonction de votre âge, vous avez tant pour cent de réduction. S'il y a bien un secteur qui ne marche qu'à la promotion, c'est quand même bien le vôtre.
Non, pas qu'à la promotion, c'est pas vrai.
Bah, quand même.
Il y a beaucoup de promotions en optique parce qu'il y a de la marge. Mmh. Maintenant, il y a beaucoup de frais derrière, beaucoup de frais de structure aussi derrière. Mais c'est un secteur qui se porte bien. Si vous avez des enfants qui ont 18 ans aujourd'hui, faites-leur faire optique, quoi.
Vous avez créé en 2016 votre propre clinique de l'optique à Lyon. Est-ce que vous comptez en développer d'autres ?
Clinique de chirurgie. Mmh. Donc, nous sommes les seuls en Europe, d'ailleurs, la seule enseigne en Europe à pouvoir faire, quand un client ne voit pas bien, il a le choix entre lunettes, lentilles de contact ou opération. On est les seuls à le faire. Et ensuite, il y en aura d'autres après 2020.
En France ou à l'étranger ?
Et l'un et l'autre. Pardon.
Et l'un et l'autre. Et bien, merci en tout cas beaucoup, Laurent Lévy, le président fondateur d'Optical Center, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h
merci
sur Europe.
Merci à vous et à demain, évidemment, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La photo d'une femme allongée dans la rue, le visage en sang, est à la une de Libération, qui titre « Féminicide, halte au massacre ». Avec ce rappel nécessaire, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint. 107 sont mortes en 2018. Une manifestation est organisée samedi à Paris pour obtenir un plan d'action des pouvoirs publics. Police fiscale, Bercy muscle son arsenal anti-fraude. Le journal Les Échos revient sur cette brigade financière mise en place pour mieux lutter contre la grande délinquance. La fin du verrou de Bercy inquiète, paraît-il, les milieux d'affaires. En marche, le blues des petits chefs. C'est le titre du journal L'Opinion qui revient sur la nomination des référents dans chaque département qui jouent un rôle essentiel dans le maillage territorial. Ils sont les relais départementaux du parti macroniste, des bénévoles nommés depuis Paris mais qui manquent de légitimité et de moyens. Mercosur, tir de barrage contre l'accord commercial, c'est à la une du Figaro. Alors qu'Emmanuel Macron a défendu cet accord hier à Bruxelles, la polémique enfle en France, elle gagne les rangs de la majorité et plonge le gouvernement dans l'embarras. Les ministres se relaient pour éteindre l'incendie. La photo de deux jeunes femmes est à la une du journal L'Humanité. Pia Klemp, elle est capitaine de deux navires humanitaires, poursuivie pour aide et complicité à l'immigration illégale, elle risque 20 ans de prison. Et Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch, arrêtée ce week-end, puis libérée hier, à nouveau convoquée par la justice le 9 juillet pour aide à l'immigration clandestine. Sauver des vies n'est pas un crime, titre le journal. Et puis climat, le Groenland s'adapte, écrit pour sa part le journal La Croix, qui publie en une la photo d'un pêcheur sur son bateau près des icebergs qui se sont détachés du glacier Jacob Savn en 2013. Là-bas, le réchauffement climatique permet l'essor de la pêche. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Et très bonne soirée à vous.
À tout à l'heure.